Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Les forêts recouvrent 31% des terres émergées sur notre planète. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'une forêt ? Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, les forêts sont, des terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare, avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10%. Évidemment, elles sont présentes sur tous les continents et dans les deux hémisphères, mais aussi sur la couverture particulièrement réussie du dernier numéro de LUM, le magazine Sciences et Sociétés de l'Université, intitulé à cette occasion « L'appel de la forêt ». Au fil de ces pages, nous vous proposons de voyager à la découverte de ces écosystèmes indispensables. Dans le grand nord du Canada, dans les mangroves luxuriantes de Guyane, sur les petites îles du Pacifique ou ici, en métropole. Toutes les forêts ont un point en commun. Celui de ne pas aller très bien, voire carrément mal. Changement climatique, méga-feux, cyclones, sécheresses, exploitation humaine. Les arbres sont à la peine, tout comme la biodiversité qu'ils hébergent. Dans ce magazine, nous vous parlons de l'emblématique ours des Pyrénées, du sanglier et même de toutes petites fourmis. Nous vous parlons aussi des Baka, ce peuple du Cameroun qui tente de subsister entre les sociétés d'exploitation forestière et les parcs naturels. Entre 1990 et 2020, la seule déforestation a en effet causé la perte de 420 millions d'hectares de forêt, à peu près 7 fois la France. Une véritable saignée verte que les organisations internationales tentent d'endiguer avec des outils tels que le Fonds vert pour le climat ou le Pacte vert pour l'Europe. Un de ces programmes emblématiques est le REDD+, sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Notre invité est économiste. Après une thèse réalisée au SEM sur l'évaluation de ces programmes REDD+ au Brésil, elle poursuit aujourd'hui ses recherches au laboratoire MOISA. Avec nous dans le studio, Gabriela Demarchi. Bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour, merci pour l'invitation.
À mes côtés dans le studio pour réaliser cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
Et en seconde partie d'émission, direction l'Écotron, situé sur le site de Bayarguet, pour une nouvelle série de reportages. Et on commence avec la plateforme, donc Macrocosme. C'est Damien Landé qui nous fait la visite. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors on a commencé à esquisser le problème de cette forêt avec une disparition qui est une catastrophe en soi, hein, pour les arbres, les plantes, les espèces animales et humaines qu'elle abrite. Mais c'est aussi une catastrophe au-delà des limites de la forêt, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors aujourd'hui, la forêt amazonienne est-elle encore un puits de carbone, Gabriela Demarchi ?
Il n'y a pas de consensus par rapport au fait que l'Amazonie elle est encore un puits de carbone. Mais ce qu'on sait, c'est que cette forêt, il y a beaucoup de carbone stocké et la déforestation engendre l'émission de ce carbone qui est stocké. Et donc, et des émissions sont issues de l'Amazonie. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes causes d'émissions de gaz à effet de serre au Brésil et au monde.
C'est ça, c'est qu'on a tendance, nous, dans l'imaginaire, à voir la forêt comme le grand poumon vert qui va absorber toutes les émissions. En fait, elle émet des gaz à effet de serre.
Exactement.
Alors le Brésil, Lucie l'a dit en introduction, c'est le pays le plus touché par la déforestation. Donc il a perdu l'équivalent de la superficie totale de la France en 10 ans. Pourquoi c'est ce pays-là qui paye le plus lourd tribut en termes de déforestation ?
Déjà, en surface, c'est le pays qui détient la plus grande partie de l'Amazonie. Donc déjà, rien que ça, comme il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de déforestation. Mais c'est aussi un pays où l'agriculture elle est très forte et l'agriculture elle dépend des zones pour produire. Donc au Brésil, la déforestation est majoritairement... issus de l'étendage des terres pour les pâturages et pour le soja, par exemple.
Alors la déforestation, elle a néanmoins baissé de 70% au Brésil entre 2005 et 2013. C'est énorme. Alors est-ce qu'on sait ce qui est responsable de cette baisse spectaculaire ?
C'est difficile de dire une cause unique pour la réduction de la déforestation, notamment pour le fait qu'il existe une seule Amazonie, un seul Brésil. Donc c'est difficile d'avoir un groupe de contrôle pour dire ce que ce serait passé.
Avec un autre scénario.
Mais on sait que politiquement, il y a eu une forte volonté de diminuer la déforestation, notamment sous le mandat de Lula, qui a mis en place plusieurs politiques publiques qui visaient diminuer la perte de la forêt.
Et, ouais. Et est-ce que justement, donc on voit qu'à partir de 2013, les chiffres de la déforestation remontent, c'est aussi lié à la politique du pays ?
C'est lié à la politique et au marché, mais encore une fois, c'est difficile de dire c'est quoi cause, parce qu'en même temps, il y a le prix de la viande qui augmente, donc ça donne une incitation aux agriculteurs à déforester. En même temps, il y a une crise politique à partir de 2014. Il y a plusieurs facteurs en même temps, donc c'est difficile de mettre en évidence c'est quoi la cause exacte. Mmh.
Alors vous êtes penché en particulier sur un programme qui s'appelle PASS, qui est basé sur ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces paiements ? Ça consiste en quoi ?
Ça consiste à rémunérer un acteur pour un effort de produire un service environnemental, comme on dit. Et ça peut être la déforestation, mais ça peut être... pas utiliser des pesticides comme dans les contrats agro-environnementaux en Europe, ou pas utiliser trop d'eau pour irriguer ces parcelles. Il peut exister des paiements pour services environnementaux sur plein de services. Et là, on se penche sur le cas spécifique de la déforestation et je vais vous le dire après.
Avec les REDD+, justement, merci, c'est bien, vous me faites la transition. Donc avec les REDD+, justement, donc on en a un peu parlé en introduction, donc c'est la réduction de la déforestation et des émissions liées à la déforestation. Est-ce que vous pouvez essayer de nous résumer, alors c'est compliqué les REDD+, il y en a plein de sortes, mais est-ce que vous pouvez un peu nous résumer ce que c'est que ce dispositif des REDD+?
C'est un mécanisme qui a été évoqué lors des COP. Et ça consiste, de façon simple, que les pays riches, qui sont très forts en émissions de gaz à effet de serre, ils compensent les pays plus pauvres, qui, je ne sais pas si c'est par hasard ou pas, c'est aussi où il y a des grandes forêts tropicales, dans les tropiques, et pour protéger ces forêts. Parce que les pays pauvres, ils disent, OK, on veut participer à la lutte au changement climatique, sauf que pour nous, ça veut dire pas de développement économique parce que notre économie, elle est très dépendante de l'agriculture ou des mines. Donc, c'est des accords nord-sud, on va dire, et il y a beaucoup de complexité. Là, j'ai simplifié, mais...
Oui, c'est surtout que c'est pas juste les pays occidentaux qui vont donner de l'argent gentiment pour que les autres fassent quelque chose de bien. Là, c'est que notre intérêt est en jeu aussi, en fait. Dans les REDD+, on leur donne de l'argent pour ne pas avoir des réductions au niveau mondial. C'est ça, en gros.
Exactement. Et un des pays qui est plus emblématique dans les financements de ces projets, c'est la Norvège, qui est un pays qui, si un jour la montée des eaux arrive, il va disparaître. Donc c'est un pays qui est très, très intéressé par la question du changement climatique. Donc il y a toujours... C'est une bonne action, mais il y a une raison derrière.
Oui, bien sûr. C'est pas gratuit, quoi.
Oui, exactement.
Alors, je reviens un peu sur le programme dont on a parlé tout à l'heure, le programme PASS, donc que vous avez étudié. Il y a combien d'exploitants agricoles qui ont participé à cette initiative, justement, à qui on a donné cette compensation financière pour ne pas couper les arbres ?
350 familles ont reçu ils ont signé un contrat de paiement pour services environnementaux, mais dans le programme PASS, il y a plusieurs centaines de familles qui ont participé et ont reçu d'autres bénéfices, mais pas des paiements pour services environnementaux. Les 350 familles ont reçu, en plus de l'assistance technique, de conseils, ils ont eu ce contrat qui était conditionnel, c'est-à-dire ils recevaient de l'argent s'il arrêtait la déforestation.
Et vous les avez rencontrés un petit peu. Qu'est-ce que c'était leur perception à eux, justement, de cette participation au programme? Est-ce qu'ils en étaient contents? Est-ce qu'ils n'en étaient pas satisfaits?
Donc, j'étais sur le terrain et c'est mitigé. Il y a une partie qui a vraiment adopté les nouvelles pratiques qui ont été proposées par l'ONG porteuse de ce programme. Donc, ils ont mis en place l'agroforesterie. Ils ont fait ce qu'on appelle l'intensification des pâturages, mis en place plein de techniques et des connaissances pour améliorer leur production. Et il y en a d'autres qui étaient un peu déçus parce que le programme n'était pas continu et il a duré qu'il y ait 3 ans et parce que les nouvelles pratiques plus, on va dire, durables ne rapportaient pas autant d'argent que le pâturage et la vente de viande.
Juste concrètement, en gros, c'est une ONG ou le gouvernement qui va arriver et qui va dire vous déforestez pas, vous ne coupez pas les arbres sur cette parcelle, mais on va vous donner l'argent qu'aurait généré cette parcelle. C'est ça, en gros, qu'on leur propose?
Ouais, dans ce programme spécifique, c'était une ONG qui était financée par un fonds qui est géré par le gouvernement. Et il y avait plusieurs conditionnalités. Donc, une, c'était de avoir au moins 30% de leur parcelle couverte en forêt. Ceux qui avaient moins de 30%, ils n'étaient pas éligibles au programme. Et l'objectif, c'était d'arriver à avoir la moitié de leur parcelle couverte en forêt. Et ils étaient payés si, à la fin de chaque année, on détectait pas de déforestation dans leur terre. Et il y avait une sorte de vérification sur le terrain aussi qui laissait la forêt régénérer. Mais ça, c'est un peu plus dur de détecter par des images satellites. Donc, ils étaient vraiment payés que pour la déforestation.
Mmh. Alors, ces programmes RED+, ils sont l'objet de nombreuses critiques. Ça explique aussi votre travail. Justement, sur la question de l'évaluation de ces programmes, c'est-à-dire comment on peut être sûr que finalement, l'argent qu'on donne à un agriculteur pour ne pas déforester une parcelle, comment on peut être sûr qu'il l'aurait déforestée, cette parcelle, s'il n'y avait pas eu d'argent? Comment on fait pour évaluer ça?
Justement, c'est un peu la complexité des évaluations de ce type-là. Donc, comme ces interventions, elles ne sont pas mises de façon aléatoire, il y a un certain profil des participants et ce n'est pas par hasard qu'ils sont choisis et qu'ils s'est auto-choisis. Et on peut se poser la question, peut-être c'est des gens qui ne l'auraient pas déforesté de toute façon, donc pour eux, il n'y a pas d'effort à faire. Et à la fin, ils reçoivent leur paiement et voilà. Donc, il n'y aurait pas de ce qu'on a dit, on dit dans le jargon, l'additionnalité. Donc, il n'y aurait pas d'effet positif de programme. Donc, c'était quoi le reste de la question?
C'était justement quel outil, en fait, Parce que dans votre papier, je n'ai pas donné les chiffres, mais vous dites que le programme PASS, il a permis d'éviter 15 à 43% de déforestation sur ces exploitations. Mais voilà, quels outils vous avez pour être certain que cette déforestation, elle aurait eu lieu sans votre programme?
Donc, on a mobilisé des méthodologies statistiques qu'on appelle des appariements, des jumeaux statistiques. On essaie de trouver... avec le cadastre des parcelles qui se comportaient exactement de la même façon que ceux qui ont participé du programme et avant le début du programme, pour reconstruire ce qu'on appelle un contrefactuel, ce qui se serait passé dans les parcelles s'ils n'avaient pas été inscrits sur le programme PASS. Et pour ça, on s'appuie sur des données de télédétection historiques. Donc, on voit les trends de déforestation de avant le début du programme. Ils ont reconstruit un groupe qui était exactement dans la même trajectoire. Et la seule différence est le fait qu'ils ont participé du programme. Donc, on arrive à trouver l'impact d'être ou pas dans ce projet RED+.
Alors, justement, je reviens dessus. Vous parlez de données de télédétection. En pratique, là, on est sur des petites exploitations. Est-ce qu'on arrive, avec les images satellites dont on dispose, à voir à très petite échelle comme ça, s'ils ont coupé un nombre d'arbres qui, du coup, est peut-être pas immense par rapport à la résolution des images satellites? Comment vous faites pour résoudre ces problèmes, justement?
Ça, c'est une des limites des données qui sont publiques aujourd'hui. Il y a un seuil en dessous de cela qu'on ne peut pas détecter la déforestation. Nous, on utilisait deux bases de données et une, elle était à presque 0,1 hectare, le seuil. Donc, c'était l'échelle de pixels et on pouvait détecter la déforestation. Mais on ne peut pas aller plus bas que ça. Donc, 3-4 arbres, on n'aurait pas pu détecter. C'est les limites de cette étude. Mais il y a des développements en télédétection, notamment aussi par rapport à la résolution temporelle, parce que là, on a des données qu'on a qu'une fois par an. C'est quoi la déforestation? Alors qu'il peut y avoir des dynamiques beaucoup plus intenses dans le temps. Et voilà, c'est une des limites et l'échelle spatiale et temporelle de cette étude.
Et du coup, ces données de télédétection, dans l'article, vous dites qu'elles vous ont aussi servi à trouver les jumeaux statistiques dont vous parliez tout à l'heure pour la situation contrefactuelle. Vous l'avez utilisé de quelle manière ?
On avait une base de données sur les parcelles qui sont présentes dans la zone et on a mesuré la déforestation de tous ces parcelles, c'est-à-dire ceux qui ont participé du programme et ceux qui n'ont pas participé. Et parmi ceux qui n'ont pas participé, on a, par des méthodes statistiques, trouvé ceux qui étaient exactement dans le même trend des participants. Et comme ça, on a pu reconstituer cette fameuse groupe de contrôle et situation contrefactuelle.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que le programme il s'arrête? Parce que vous avez dit que ça a duré 3 ans. Au bout d'un moment, on ne leur donne plus de subventions aux agriculteurs. Est-ce qu'ils ne risquent pas de rattraper leur retard après, une fois qu'ils ne sont plus payés, et de couper encore plus d'arbres et que finalement le programme n'ait pas été bénéfique? Vous avez pu l'étudier, ça?
Exactement. Ça, c'était une des questions qu'on se posait. Il n'y avait à l'époque pas beaucoup d'études qui regardaient ce qui s'est passé une fois que les paiements s'arrêtaient. Et on pourrait se demander, est-ce qu'ils n'ont pas juste fait un effort pour après rattraper et donc les bénéfices du programme se seront annulés. Ce qu'on retrouve, c'est qu'ils n'ont pas changé leur pratique complètement. Donc une fois que les paiements arrêtent et retournent dans leur même trend de déforestation d'avant, on sait ça parce qu'on compare à leur groupe de contrôle, ce fameux contrefactuel, et ils se rejoignent. Donc, pendant un moment, 2-3 ans, ils s'écartent de ce groupe et une fois que les paiements s'arrêtent, ils retournent dans la même trend. C'est-à-dire que la forêt qui a été sauvée pendant le programme Ellier, elle est là, elle n'était pas rattrapée dans le temps, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Donc, c'est ça l'intérêt aussi de bosser, travailler avec des données de télédétection, ce qu'on peut continuer à voir dans le temps, si dans 10 ans... cette forêt est sauvée pendant 3 ans, elle sera toujours là ou pas?
Ce risque-là, c'est ça que vous appelez l'effet rebond en économie, le risque de recouper derrière?
Oui, l'effet rebond, ce serait si on avait trouvé que, par exemple, ils accéléraient, ils rattrapaient le temps perdu parce qu'ils avaient fait un effort. Et là, les bénéfices du programme, ils n'étaient plus existants. Dans ce qu'on a trouvé, il n'y a pas eu cet effet. Donc, ils ont juste repris leur pratique d'avant, mais ils n'ont pas... annuler toute la forêt qui a été sauvée pendant le programme.
Et est-ce qu'il y a des effets de fuite avec ces programmes? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce qu'on évite de couper à un endroit, il est coupé ailleurs? On a une échelle comme ça qui nous permettrait de voir, je sais pas, à l'échelle d'une région ou d'un État, si finalement on a une réelle baisse absolue de déforestation?
Il y a d'autres études qui ont montré qu'il peut exister ces effets de fuite parce que le voisin il va couper plus, il y a des accords entre les parcelles voisines ou par un effet de ce qu'on appelle un équilibre de marché. Donc comme il y a moins de producteurs de viande, il y a un effet de prix, donc le prix de la viande augmente et ça incite encore plus à déforester. Il aurait pu se passer quelque chose comme ça. Donc, on a aussi regardé ce qui se passait dans les exploitations qui étaient autour des participants. On a dessiné des sortes de zones tampons autour et voir qu'est-ce qui se passait dans ces zones tampons. Et ce qu'on a trouvé, c'était un peu surprenant pour nous. Il n'y a pas d'effet de fuite, c'est-à-dire il n'y a pas une augmentation de la déforestation, mais plutôt une baisse de la déforestation dans les parcelles voisines. Et on a du mal à expliquer, il y a plusieurs hypothèses. Comme j'avais dit avant, le programme, il y avait plusieurs volets. Donc les paiements pour services environnementaux, c'était un des piliers du programme, mais il y avait aussi le conseil et de l'information. Donc ça se peut que le programme ait eu des effets bénéfiques autres que par les paiements. Mais il y a aussi peut-être une hypothèse qui les parcelles qui étaient autour, les exploitants, ils s'attendaient à participer d'un projet dans le futur. Donc il y a une sorte d'anticipation du type « Ah, je ne vais pas déforester, comme ça l'ONG peut-être qu'il va venir chez moi et m'offrir un contrat ». Et ce qu'on voit, c'est que cet effet de fuite, on va dire, positif, elle ne dure pas trop dans le temps. Elle est juste au tout début du programme. Donc, ouais, ça ouvre à d'autres questions. On ne sait pas pourquoi, mais on a des hypothèses et il faut d'autres types d'études pour pouvoir les creuser.
Alors, une de vos pistes aussi pour poursuivre ces programmes, ce serait de les rendre plus flexibles. Parce que là, pour le programme PAS, si un exploitant a coupé un seul arbre, il était sorti du programme. Donc, ce qui pouvait faire perdre pas mal de participants très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi est-ce qu'on pourrait avoir des contrats plus flexibles et comment ça pourrait être plus intéressant ?
Donc, la flexibilité, déjà, il peut avoir un effet d'être plus attractif. Il peut y avoir plus d'agriculteurs intéressés par ces types de programmes s'ils se disent en avance « Ah, s'il m'arrive quelque chose au cours du programme, j'ai quand même une sorte de marge de manœuvre pour faire face à des chocs économiques du type une maladie que je n'ai pas anticipée. » Et donc, ça peut déjà augmenter le nombre de producteurs qui sont intéressés, et il peut aussi, comme vous avez dit, diminuer le nombre de personnes qui vont sortir du programme au fur et à mesure. Donc à la fois, on peut rentrer plus de gens dans ces contrats et les perdre moins dans le temps.
Merci beaucoup Gabriela De Marquis, on est déjà à la fin de cette interview, c'est passé vite. À très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Nous entamons une nouvelle série de 4 épisodes à l'écotron de Baillarguet. Alors l'écotron, il permet le conditionnement climatique d'écosystèmes, donc de différentes tailles, y compris des très grosses, vous allez voir, et la mesure en ligne des flux de matière et d'énergie liés au processus écophysiologique de ces écosystèmes, donc par exemple du carbone. On commence avec la plateforme Macrocosme pour les gros écosystèmes, et ouvrez bien vos oreilles car c'est Damien Landet, le responsable de la plateforme, qui vous fait la visite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît son sujet.
Ben bonjour, moi c'est Damien Landet et je suis sur le campus international de Baillarguet.
Et sur un toit.
Et sur un toit surtout, on est sur la partie immergée de la plateforme. Là, en face de nous, en fait, on a 14 formes géodésiques qui constituent les macrocosmes.
Voilà. Alors, on va un peu donner à voir ce qui se trouve sur ce toit à nos auditeurs. Vous avez parlé de formes géodésiques, c'est ça ?
On va dire ovales, avec des toiles en téflon, qui laisse passer justement la lumière aussi bien au niveau intensité qu'au niveau qualité spectrale, parce que le téflon en fait laisse passer les UV et aussi les infrarouges.
Et alors, donc, qu'est-ce qu'on trouve sous ces formes ?
Donc, sous ces formes-là, on a eu plusieurs expérimentations depuis le début du fonctionnement de cette plateforme, notamment des expérimentations en collaboration avec l'INRA de Clermont-Ferrand. Et donc là, c'était l'évolution des prairies de moyenne montagne en fonction des changements climatiques. Est-ce que l'élévation de la concentration de CO2 atmosphérique a un impact positif ou négatif sur, justement, la réduction de pluie effective et efficace, surtout pour les écosystèmes. On est un peu les Jean-Michel Jarre du climat. Si on veut 500 particules par million, donc ppm de concentration de CO2 dans l'atmosphère, on pourra le faire aisément. On peut faire des stress thermiques en augmentant la température.
Est-ce qu'on peut aller voir d'un peu plus près ?
Allons-y.
Là, justement, elles sont toutes bâchées, donc ces installations. Pourquoi ? C'est parce qu'il se passe pas, il n'y a pas d'expérience en ce moment, c'est ça ?
Exactement, c'est que là, on est entre deux manips. Il faut savoir que le turnover des expériences scientifiques sur ce plateau-là, c'est tous les 3-4 ans.
Donc là, ça veut dire que chaque expérimentation dure en moyenne 3-4 ans.
C'est ça.
Vous avez la clé à la main, on va vous laisser.
Ouais.
Oh, mais oui, d'accord. Donc là, on passe une porte en...
Le sas.
Ok, sas un porte. Sas. Ah ouais, mais ça blague pas, c'est du solide quand même. Ouais. C'est pas une petite tente, quoi.
Attention à la trémie, c'est ici même que le lysimètre vient s'insérer.
On parlait de grand pot de fleurs, ça c'est le diamètre du pot de fleurs.
Ça c'est le diamètre du pot de fleurs, exactement.
5 mètres carrés, ok. Vous travaillez pour des chercheurs qui viennent d'un peu partout, alors j'imagine.
On travaille avec et pas pour des chercheurs. Mais du coup...
Merci, c'est bien.
On travaille avec des équipes internationales et nationales qui viennent utiliser nos plateformes expérimentales. Bien évidemment, on a des contraintes de fonctionnement. On ne peut pas, si vous voulez, faire un été marocain pendant l'hiver et à l'inverse, un hiver scandinave en plein été. Et du coup, au final, notre particularité avec notre force de frappe qu'on a, c'est qu'on peut faire plus 10, moins 10 par rapport à l'extérieur, quel que soit le rayonnement. Ce qui couvre au final quasi toute l'Europe.
J'ai une question plus sur en dessous, là, quand on regarde dans le trou, il y a une espèce de socle orange. Littéralement, on pose le pot de fleurs qui contient la terre sur ce socle, là.
Exactement ça. Et si vous voulez bien, on va pouvoir passer dans la partie immergée de la plateforme Macrocosme pour que je puisse vous expliquer tout ça.
On peut aller en dessous ?
Absolument.
Wow.
Bon, okay. Ben on va pas sauter. Allez, venez par là. Du coup, ça y est, on est dans l'antre, là. Là, on est content.
Ok, donc là, on est sous un lysimètre.
Là, on est dans la partie immergée, en fait, de l'iceberg. Du coup, voilà, là, le lysimètre qu'on vient de voir, là, qui fait 5 mètres carrés de surface et 1,50 m de profondeur, il est posé sur une table et tout ce plateau-là est posé sur 4 jauges de contraintes à Pont de Winston. Donc, au final, c'est des grosses balances qui nous aident justement à tout d'abord arroser, parce que moi j'arrose pas avec un arrosoir les 12 pots de fleurs.
Donc, surtout vu la taille du pot de fleurs.
Oui, donc si on a une pluie de 20 mm, 20 litres par mètre carré, 100 litres, puisqu'on a 5 mètres carrés, hein, tout simplement. Donc au final, nos arrosages se font la nuit, et on va dire, mon petit automate, intelligence déportée, dis-moi quelle est la masse à minuit, par exemple. Donc il va me dire... 15 tonnes de sang, d'accord. Alors, commence à arroser. Et quand tu as fait ta pluie de 100 litres, à savoir 20 mm, alors tu arrêteras donc à 15 tonnes 300. La pluie est finie. Ça ne nous sert pas qu'à ça, parce que sinon, ça serait vraiment déconnant. Ça nous sert surtout à mesurer l'évapotranspiration d'un écosystème. Voilà, donc du coup, là, c'est tout le système de régulation de température et d'humidité. Donc là, justement, il y a nos CTA, centrales de traitement d'air, avec une batterie chaude, une batterie froide. J'ai 19, le chercheur me demande 22, la batterie chaude va se mettre en place. Et inversement, j'ai 32, le chercheur veut 28, hop, le froid va se mettre en place. Le corps de notre métier, c'est de confiner, d'accord ? Mais c'est de ausculter et de mesurer. Et donc, du coup, tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait faire des mesures de N2O, oxyde nitreux, gaz à effet de serre, de méthane, gaz à effet de serre, mais aussi de CO2, gaz à effet de serre. Pour faire les mesures, eh bien, c'est simple. On a là, je ne sais pas si vous voyez bien, exactement ici, un piquage d'air neuf. Donc, voilà, on est à
les
l'extérieur. Donc, on a, on va dire, je ne sais pas moi, en ce moment, 410 parties par million, ppm de CO2 à l'extérieur. Donc, ça, c'est ce qui rentre dans notre dôme. Tournez-vous. Et donc, du coup, après, on va mesurer quoi ? La concentration qui sort de notre dôme. Et donc, du coup, au final, là, c'est cool, on va faire une soustraction. Jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, avec un débitmètre fil chaud, on va pouvoir mesurer des flux de CO2, que ce soit des flux respiratoires ou photosynthétiques en micromol mètre carré seconde.
Ok.
Et c'est pour ça qu'on a la capacité d'ausculter les 12 macrocosmes les uns après les autres. Une mesure dure à peu près une minute. 12 dômes auscultés, 12 minutes. On revient à la 13e minute sur le premier qui a été mesuré. D'où une force de frappe de mesure de flux quand même exceptionnelle.
Tu juste pour vous montrer, parce que ça c'est rigolo.
Donc là on est devant l'armoire électrique.
En plus d'être biologiste, instrumentaliste, on est aussi électricien en plus d'être plombier, à savoir que tous nos capteurs là, c'est nous qui les branchons. Et puis ensuite on a une intelligence déportée et qui ensuite est raccordée à notre supervision.
Ça c'est le compteur d'un seul dôme.
Exact. On a sur la plateforme en elle-même, là, on a 400 capteurs.
La semaine prochaine, nous restons à l'Écotron pour découvrir la plateforme Microcosme avec Aline. Allume la science, c'est déjà fini. Merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.